Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des centres d'accueil de migrants en dehors du territoire européen, d'autres centres contrôlés cette fois dans l'Union pour étudier les demandes d'asile, et puis une relocalisation et la réinstallation de migrants sur la base du volontariat des pays d'accueil. Ce sont quelques-uns des points sur lesquels les 28 dirigeants européens sont tombés d'accord cette nuit au bout de 9 heures de discussion. Détail dans un instant.
Pas un mot, aucun regard bienveillant, pas une excuse. L'avocat de l'association des victimes du 13 novembre, Fraternité et Vérité, déplore la brève déclaration hier de Salah Abdeslam, dernier survivant des attaques terroristes du 13 novembre 2015.
Un homme aux motivations inconnues a ouvert le feu hier dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, dans le Maryland, aux États-Unis. Au moins 5 morts. Grande émotion sur place. Nous rejoindrons dans ce journal notre envoyé spécial. C'est un défi au protectionnisme. Le tourisme international file à toute allure sous la pression de la clientèle chinoise. Il contribue largement à la prospérité des États. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, hausse des cas de MST, les raisons d'une épidémie. Nous poserons la question à Eve Plenel, directrice de Vert Paris sans sida, dans une quinzaine de minutes.
Une nuit de discussions et de tensions pour accoucher finalement au bout de 9 heures d'un accord au forceps. Les 28 dirigeants européens sont parvenus cette nuit, après donc 9 heures de réunion à Bruxelles, à s'entendre sur un accord migratoire. L'Italie n'est plus seule, s'est félicité à l'aube le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, et de parler, comme Emmanuel Macron, d'une Europe plus responsable et plus solidaire. Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes avec vous Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Catherine.
Que contient donc ce compromis sur la question migratoire qui, pour l'instant, salué par les 28.
Eh bien, l'Italie a effectivement forcé les autres États membres à la solidarité, du moins pour la prise en charge des migrants qui accostent sur les rivages européens. Des centres, désormais appelés centres contrôlés, devraient être installés en Europe sur la base du volontariat et gérés par l'Europe afin d'examiner les demandes d'asile et de faire le tri entre les migrants. Ensuite, les migrants qui obtiendront le statut de réfugiés, les seuls autorisés à rester en Europe, seront répartis, mais effectivement, là encore, sur la base du volontariat. Par ailleurs, des centres d'accueil, toujours selon la terminologie officielle, pourraient être installés hors du territoire européen, donc en Afrique, pour étudier les demandes d'asile. Du moins, les 28 engagent-ils la réflexion en ce sens? Enfin, les frontières extérieures de l'Union seront renforcées, avec la deuxième tranche d'aide de 3 milliards d'euros à la Turquie, débloquée pour qu'elle ne laisse passer aucun migrant. L'aide à l'Afrique du Nord devrait aussi être augmentée pour lui faire jouer ce rôle de gendarme des frontières de l'Union. Dernier point à retenir, tout sera fait pour éviter les mouvements secondaires, c'est-à-dire les déplacements d'un pays à l'autre des candidats à l'asile, et donc pour les retenir dans le pays de première arrivée, le temps d'examiner leur situation.
Mais est-ce que cet accord trouvé cette nuit, Marie-Pierre, règle pour autant la crise en Europe ?
Bien, les tenants de la ligne dure peuvent crier victoire. Ils ont amené les 28 sur leur position et donc l'Europe, tant bien que mal, poursuit son chemin. L'Italie obtient des centres de tri ailleurs en Europe que sur son territoire. Il y a ce nouveau recul des frontières de l'Union, avec la réflexion engagée sur les centres en Afrique et le rôle renforcé des gardes-côtes libyens. Les quatre du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, eux, ne seront pas obligés d'accueillir de réfugiés. Enfin, l'aile dure de la CSU en Allemagne obtient la limitation des mouvements secondaires des migrants qui enregistraient en Italie gagnaient ensuite l'Allemagne et qu'elle menaçait de refouler de manière unilatérale, ce qui pouvait provoquer une crise politique dans le gouvernement d'Angela Merkel. Tout a été fait pour éviter ces crises-là. Quant à la crise migratoire, eh bien, on verra bien.
Marie-Pierre Véraud, merci pour toutes ces explications. Et après la journée marathon d'hier sur la question migratoire, c'est à 27 que les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Bruxelles, sans le Royaume-Uni, à moins d'un an du Brexit. Les dirigeants européens devraient s'entendre sur quelques avancées modestes pour réformer la zone euro, mais ils pourraient bien repousser pour l'instant la proposition franco-allemande de budget ardemment défendue par Emmanuel Macron et qui a reçu le soutien de la chancelière allemande Angela Merkel. Une ample réforme est pourtant nécessaire selon l'économiste Eric Dorr, directeur des études économiques à l'ISEG School of Management, école de commerce à Paris.
Tous les économistes sont d'accord pour dire qu'il faudrait quand même un minimum de fédéralisme budgétaire, qu'il y ait un filet de sécurité commun derrière les fonds de résolution des banques lorsqu'elles sont en difficulté, qu'il puisse y avoir certains transferts fiscaux quand un des pays de la zone euro est touché par des chocs qui lui sont spécifiques, parce qu'il y a des gros problèmes de la zone euro telle qu'on l'a conçue, c'est que comme il n'y a aucune forme de solidarité, si ce n'est par des prêts comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien, il y a une grande asymétrie dans la manière de s'ajuster au choc. Tout le poids de l'ajustement repose sur les pays en déficit, comme l'Espagne, et ils l'ont fait, comme l'Italie, etc., de faire de l'austérité budgétaire, ce qui est assez logique, comme ils sont surendettés. Mais en même temps, l'Allemagne, normalement, s'il y avait une vraie coordination des politiques macroéconomiques, pourrait faire quand même un petit pas vers les autres, en acceptant de dépenser un peu plus pour ses propres infrastructures, d'ailleurs ce qui lui ferait du bien à long terme, et ce qui créerait une croissance qui profite aux autres.
Éric Dor, directeur des études économiques à l'ISEG School of Management, une école de commerce à Paris. Il répondait à Stanislas Vazak.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont perpétré les attaques du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Il est sorti de son mutisme.
Salah Abdeslam a été entendu hier pour la 7e fois par un juge d'instruction, mais il n'a répondu à aucune question intéressant véritablement le dossier. Dans une courte déclaration à connotation religieuse et politique, Salah Abdeslam n'a exprimé aucune compassion pour les victimes, Stéphane Père.
Devant l'un des 6 juges qui instruit ce dossier, Salah Abdeslam, qui a déjà récupéré de sa récente opération à l'appendicite, a tenu un court monologue visiblement appris par cœur. Il a d'abord débuté par son souhait de ne plus avoir d'avocat. « Je m'en remets seulement à Allah », a dit Abdeslam au juge, avant d'interpeller directement le chef de l'État français. Emmanuel Macron, dont la soif de puissance et de renommée appelle, selon lui, à faire couler le sang des musulmans. Puis, Salah Abdeslam s'est adressé au juge comme s'il s'adressait aux Français. « Nous ne vous attaquons pas parce que vous mangez du porc, buvez du vin ou écoutez de la musique », a-t-il dit. « Les musulmans se défendent contre ceux qui les attaquent. Vous subissez les erreurs de vos dirigeants », a-t-il conclu, avant de se murer dans le silence, ne répondant à aucune des dizaines de questions du juge d'instruction. Un discours froid, sans compassion pour les victimes du 13 novembre, un discours de justification du terrorisme qui rappelle les propos criés par ses propres complices lors de l'attaque du Bataclan. « Vous n'aurez qu'à vous en prendre à François Hollande, c'est lui qui s'en prend aux musulmans », avait crié l'un d'eux durant le massacre.
Pas un mot, aucun regard bienveillant, pas une excuse, déplore Jean Reinhardt, l'avocat de France, de Fraternité et Vérité, l'association de victimes du 13 novembre, qui a pu consulter les PV d'audition de Salah Abdeslam hier. Salah Abdeslam ne fait que reprendre le discours classique des terroristes, explique-t-il encore, mais il n'est pas du tout le cendrier vide qui nous avait été décrit par son avocat dans un premier temps, non. C'est un homme tout à fait intelligent et qui a vraiment été l'un des cerveaux des attentats du 13 novembre. Une accusation rarissime à présent. Le cimentier français Lafarge a été mis en examen hier, notamment pour complicité de crimes contre l'humanité dans le dossier explosif de financement présumé de terrorisme en Syrie. Lafarge est soupçonné d'avoir contribué à financer des groupes djihadistes pour maintenir l'activité de son usine de Jalabiya située dans le nord de la Syrie. 8 cadres et dirigeants du cimentier français ont déjà été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. Incrimination auxquelles s'ajoute donc désormais complicité de crimes contre l'humanité. C'est une décision historique selon les parties civiles. Aux États-Unis, une nouvelle fusillade, cette fois-ci dans un journal local. Un homme armé d'un fusil de chasse a fait irruption hier après-midi dans la salle de rédaction d'un quotidien d'Annapolis dans l'état du Maryland sur la côte est des États-Unis. Et il a tué 5 personnes, le commercial du journal et 4 journalistes. Ses motifs n'étaient pas politiques, mais ils semblent liés à un contentieux avec le journal. Grande émotion en tout cas sur place. Grégory Phillips, vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Annapolis.
Le Capital Gazette, c'est le journal local ici qui tire à 50 000 exemplaires, un des plus vieux quotidiens d'Amérique. Et tout le monde ou presque à Annapolis connaît sa douzaine de journalistes. Devant le bâtiment qui abrite la rédaction en banlieue d'Annapolis, le maire Gavin Buckley est abasourdi.
On n'est pas ici sur un champ de bataille. On est dans une petite communauté paisible. Oui, c'est vraiment choquant.
Puis le chef de la police du comté, Bill Kremph, vient donner quelques détails sur le suspect interpellé. Un homme de 38 ans qui vit ici dans le Maryland et qui apparemment avait un contentieux avec le journal. Il y a 6 ans, condamné dans une affaire de harcèlement sur une jeune femme, il avait attaqué le quotidien en diffamation.
C'était une attaque ciblée sur le Capital Gazette et on sait qu'il y avait des menaces contre le journal via les réseaux sociaux.
On remarque alors ce journaliste aux cheveux blancs et qui les larmes aux yeux note sur son calepin les informations révélées par la police. Il s'appelle Pat Ferguson, l'un des 6 reporters du journal. Il n'était pas à la rédaction au moment de la fusillade.
Je suis dévasté. Quelque chose comme ça, on s'y attend en Afghanistan ou en Irak, mais pas dans une petite rédaction. Mais on va continuer. Vous verrez, demain matin, il y aura un journal.
Le reportage de Grégory Phillips aux États-Unis pour France Culture. Retour en France avec une feuille de route sur la santé mentale et la psychiatrie dévoilée hier par le gouvernement, l'énoncé d'une stratégie nationale qui se décline en 11 domaines d'action et en 43 objectifs nationaux. Autrement dit, le gouvernement fixe le cap, rappelant qu'il faut renforcer la prévention de la souffrance psychique, mieux coordonner également l'offre de soins et améliorer l'inclusion des malades. Cette feuille de route est donc un premier diagnostic posé sur la situation.
Un diagnostic très vaste qui rappelle que 15% des 10-20 ans auraient besoin d'un suivi psychique en France et que les décès par suicide sont aussi très élevés chez nous, qui reconnaît que la souffrance au travail est forte dans le secteur de la santé ou encore qu'on utilise trop la contention dans certains hôpitaux psychiatriques. Bref, la stratégie se veut très large et c'est son avantage, se félicite le docteur Maurice Bensoussan du syndicat des psychiatres français. Le plan place le parcours du malade, souvent très chaotique, au centre.
Rupture de soins, rupture d'insertion, rupture familiale, perte d'emploi, voilà, toutes ces choses-là sont liées. Je trouve que l'intérêt de cette feuille de route, c'est de faire collaborer ensemble les acteurs et de sortir de l'isolement des acteurs. C'est-à-dire les hospitaliers vont travailler entre eux, les médecins en ambulatoire vont travailler entre eux, le médico-social va développer quelques rééducations, quelques soins techniques, quelques, va avoir du mal aussi à s'articuler avec le sanitaire. Et l'intérêt du plan, c'est justement de travailler sur les coopérations et les collaborations.
Le plan énonce aussi, et c'est un exemple, qu'il faut limiter les hospitalisations sans consentement. Plus de 93 000 malades placés de force en 2016. Mais il n'est pas dit comment faire. Là encore, beaucoup d'acteurs sont impliqués.
Si on est capable de mettre en place des moyens d'intervention beaucoup plus précoces, des suivis un peu plus proches des patients, un soutien aux personnes qui aident les malades, par exemple, on va arriver à modifier cette spirale. C'est pour ça que je vous dis le fait d'insister sur des pratiques collaboratives et porteurs d'espoir, parce que on va pouvoir toucher à ces problèmes-là, c'est difficile, mais c'est pas que toutes les réponses sont, aucune réponse n'est donnée, on n'a aucune réponse au problème. Les problèmes sont posés, une méthodologie de travail est posée, et il va falloir voir ce qui peut ressortir de cette volonté de travailler différemment.
Maurice Bensoussan reconnaît aussi que la feuille de route n'est pas chiffrée, mais d'autres annonces vont certainement suivre.
Le gouvernement et la SNCF veulent tourner la page de la grève en pointillé de 3 mois des cheminots qui en étaient à son dernier jour hier, malgré la volonté de la CGT et de Sudrail de jouer les prolongations. Grève les 6 et 7 juillet prochains. La réforme ferroviaire est parue au journal officiel. Et en ce dernier jour de la fin de grève unitaire à la SNCF, FO et la CGT avaient décidé hier de battre le pavé ensemble pour la première fois depuis 2016 dans le cadre d'un mouvement interprofessionnel. Mais les organisations syndicales n'ont pas réussi à mobiliser largement pour la défense du modèle social et républicain, mot d'ordre de la manifestation d'hier. On y revient dans le journal de 7h30.